On continue notre petite étude sur les prophéties. Ça rapporte toujours comment présenter l'Évangile. Il y a tellement de sujets qu'on peut parler à cause. La parole nous parle de plein de sujets. Puis, dans le bout où ce qu'on est rendu, on parle de prophéties d'Ancien Testament qui ont été accomplies dans le Nouveau Testament par la venue du Messie. Le but, c'était qu'on sache qui était le Messie. Nous, c'est plus facile aujourd'hui. On est 2000 ans après, on analyse les textes de l'Ancien puis du Nouveau. On a toutes les informations d'un coup sec. Tu fais une recherche sur l'ordinateur, puis t'as toutes les informations, t'as tous les versets. Mais dans ce temps-là, c'était pas évident. Les apôtres n'ont pas tous compris les versets qui s'appliquaient pour la vie de Jésus. Ils n'ont pas tous compris tout de suite. Il y a des choses qui ont été comprises juste après la mort de Jésus. Fait qu'aujourd'hui, on regarde quand même les points, même si on est 2000 ans plus tard, ça s'adresse encore à nous aujourd'hui, tous ces textes-là. Le sujet qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les miracles qui prouvent que Jésus est le Messie. Tous les miracles que Jésus a faits, c'est une preuve. On a vu que Dieu il est venu nous parler. Dieu, le Messie, c'était Dieu fait homme. Dieu est venu nous parler, mais pour mettre de plus de punch à son discours, à ses enseignements, Dieu il avait préparé d'avance le monde parce qu'il a donné des prophéties dans l'Ancien Testament, puis il a dit que Dieu accompagnerait le Messie avec des miracles pour prouver qu'il était. Dieu voulait que les gens savent que Jésus, c'est le Messie. Il n'a pas voulu faire ça comme en cachette. Il a manifesté sa gloire puissamment. On va voir des versets qui nous disent, il a fait des miracles que nul autre a fait. Il n'y a pas personne qui l'a égalé dans l'histoire. On le sait que diable a fait des miracles dans leur religion, mais faire ce que Jésus a fait, il n'y a pas personne sur la planète qui a pu faire cela. Les miracles, ça prouve, puis c'est une preuve que Dieu a faite pour accompagner le ministère de Jésus, afin qu'on ait de l'assurance, puis qu'on croit vraiment que c'est à Jésus qui est le Messie. Dieu a accompagné le ministère de Jésus par des miracles pour prouver qui il était. Les prophéties dans l'Ancien Testament annonçaient que Dieu accompagnerait le Messie par des miracles. Dans Isaïe 42, verset 5. Ainsi parle Dieu. On ne peut pas avoir de doute sur ce qu'il est en train de nous parler. L'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Il dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Il est en train de parler à qui? Il est en train de parler à Jésus, prophétiquement. Il dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour établir une alliance avec les peuples. » C'est la nouvelle alliance qu'on a aujourd'hui. « Pour être la lumière des nations, Jésus, c'est la lumière des nations, en amenant sa lumière, ses révélations, ses enseignements. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, juste à lui, au Messie. » ni mon honneur aux idoles. Dans ce passage-là, c'est un passage qui est spécifique à un appel de Dieu sur son Messie, sur Jésus-Christ, Yeshua, le Messie. Ça dit, Dieu lui parle, il dit, « Je t'ai appelé pour le salut. Je vais te prendre par la main. » On le sait comme en plein de passages où ce que Jésus dit, « Le Père me montre tout ce que je dois faire, puis c'est lui qui m'en montrera encore des plus grandes. » Puis il recevait les pensées aussi, les enseignements, c'est les enseignements du Père. Il était pris par la main par son Père, puis son Père le conduisait à chaque pas de son ministère. Mais il a fallu qu'il conduise aussi toute sa vie, parce que Jésus est le seul qui a réussi à vivre une vie sans péché. Mais en plus de ça, il marchait en étroite relation avec son père, du fait qu'il recevait chaque instruction, chaque direction, chaque parole à annoncer, chaque chose à accomplir comme miracle. Il était 100% dirigé par son père. Dieu le Père le tenait par la main, puis il le conduit afin que Dieu le Père établisse le Messie. Il fallait que le Messie soit établi. Dieu est encore en train d'établir le Messie. On est 2000 ans plus tard, puis il a établi le Messie dans nos vies. On l'a reconnu, le Messie, comme étant le Sauveur, le Seigneur. On a reçu le Seigneur, fait que 2000 ans plus tard, Dieu le Père est en cours d'établir son Messie à sa position, ce qu'il veut l'emmener, pour faire l'alliance. On l'a vu dans la parole la semaine passée, la parole de Dieu qui disait que Jésus est venu nous amener la vérité, la parole de Dieu. C'est la parole faite chair, mais il est venu nous parler. Puis le bagage de ses instructions, c'est la lumière pour éclairer. C'est les paroles de la nouvelle alliance qui est venu nous apporter. Mais c'était préparé dans l'Ancien Testament, annoncé dans l'Ancien Testament que le Messie viendra, qu'il marchera en communion avec son Père, puis qu'il viendra pour faire une nouvelle alliance. Les Juifs l'ont pas compris parce qu'ils croient pas qu'il y a une nouvelle alliance. Il y a d'autres points aussi qui ne croient pas dans les prophéties qu'on va voir plus tard. Mais là, on parle de nouvelle alliance que Dieu veut faire avec les peuples. Avec le peuple pour être la lumière des nations. C'est exactement ce que Jésus a fait. Dans le Nouveau Testament, il y a des versets qui parlent de cela, que Jésus a été établi pour être la lumière des nations. Puis là, ça parle au verset 7 des miracles qui étaient pour accompagner Jésus. Qui va ouvrir les yeux aux aveugles, qui va faire sortir de prison les captifs. On en a parlé le matin des prophéties. Il est venu pour rendre libres les captifs, mais c'est annoncé dans ce passage-là. Puis sortir les gens qui sont dans le cachot des ténèbres. Ça, c'est, on l'a dit aussi, le cachot des ténèbres, c'est l'ignorance. Quand t'es dans les ténèbres, c'est parce que t'ignores les vraies affaires. Puis là, tu tournes en rond, tu piétines sans comprendre ce qui se passe parce que les gens, ils n'ont pas reçu la lumière de la vérité qui rend libre. La vérité, c'est Jésus et sa parole. Puis Dieu, il était pour donner sa gloire à son Fils, à son Messie, le Seigneur. Les prophéties du prophète Isaïe ont eu une autre prophétie qui a appuyé une partie de ce message-là qui parle des miracles faits par Dieu à travers du Messie. Dans Isaïe 61, verset 1, il était mentionné en partie aujourd'hui. On en a déjà parlé. Mais les prophéties que le Messie marcherait avec la puissance de Dieu accomplissant des miracles par la main de Dieu. Dans Isaïe 61, Jésus, il l'a reçu puis il l'a rendu témoignage dans le Nouveau Testament, mais la prophétie annonçait « L'Esprit du Seigneur est sur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » On voit que l'onction, la puissance pour les dons qui étaient sur Jésus, mais ça venait de Dieu. C'est Dieu qui l'a oint. C'est le Saint-Esprit qu'il le oint pour qu'il puisse marcher dans cette puissance-là. C'était pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Le Messie dit, « Il m'a envoyé. » C'est qui ça qui a envoyé le Messie? C'est Dieu son Père. Il a envoyé le Messie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. On voit que la prédication du Messie, il parlait du temps de la grâce et le temps qui va venir du jugement de l'Éternel. Il est venu pour consoler tous les affligés. Il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voyez-vous, Dieu a accompagné le Messie, il a annoncé d'avance qu'il accompagnera son Messie avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges qui amèneront une bénédiction aux gens qui l'entourent. Tout ça, c'était déjà annoncé d'avance que c'était pour arriver, puis c'est arrivé exactement comme c'était annoncé. Au début de son ministère, les Juifs y ont demandé à Jésus de prouver qui il était par des miracles. Les gens ne croyaient pas automatiquement quand Jésus a commencé à prêcher et à enseigner les autres. Dans Jean 2, 18, les Juifs prenant la parole lui disent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Parce que, vous savez, la semaine passée, j'ai parlé de la femme samaritaine. Elle a dit « Je le sais que le Messie doit venir et il va nous enseigner toutes choses. » Mais les Juifs, les autres, là, dans ce verset-là, savaient que le Messie, quand il était pour venir, était pour manifester des miracles, des signes, des prodiges, afin... Parce que c'était annoncé dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Eux autres le savaient que le Messie viendrait, puis qu'il manifesterait sa puissance avec des signes. Puis quand que Jésus a commencé à prêcher, les Juifs y ont demandé, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Eux autres, « Prouve-nous que tu es le Messie, fais des miracles. » C'est ça qui était comme la pensée du peuple de ce temps-là. Jésus, lui, il parlait avec autorité. C'est de même qu'il a commencé à montrer son ministère. Et plusieurs étaient étonnés. Juste le fait de prêcher, puis il arrivait, puis il chassait un démon, part. C'est de même qu'il démontrait son autorité, qu'il démontrait aux autres qu'il était l'élu, qu'il était l'appelé, qu'il était le Messie, qu'il était celui qui devait venir. Dans Jean 7, 46, quand les huissiers ont voulu le saisir, ils répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Puis ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Mais les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? On voit que Jésus, lui, il commençait son ministère, c'était au début, ça, dans Jean 7. Puis, il prêchait, puis là, ils ont voulu le saisir. Puis, ceux qui étaient là étaient témoins de ce que Jésus disait, puis il enseignait, puis il chassait les démons. Il dit, jamais un homme a parlé comme ça. Eux autres commençaient à croire que Jésus était spécial. Parce que, pas inclus, on va voir qu'il y a d'autres versets, il y en a plusieurs qui croyaient qu'il était quelqu'un, mais il n'était pas encore sûr que c'était le Messie. Mais Jésus, il ne lâchait pas, il continuait à faire ce qu'il avait à faire, il ne se laissait pas intimider. Puis, quand il prêchait Jésus, il espérait que les gens croient en lui. Puis, si les gens ne croient pas, mais là, c'est le problème dans un sens, mais le message est appuyé par des miracles puis des prodiges. Jésus était aussi puissant par des miracles. Dans Luc 11, 20, ça nous dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Il dit, lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède, il est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, puis il distribue les dépouilles. On voit là-dedans que Jésus est en train de se présenter comme l'homme fort qui est venu, puis qui agit à cause du doigt de Dieu qui est dans sa vie. Puis il a même dit, si on irait lire les autres versets plus loin, si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils les chassent par qui? Les gens croyaient pas que c'était Dieu qui était avec lui encore. Mais il y en a qui croyaient parce qu'ils venaient à Jésus pour recevoir les guérisons. Le doigt de Dieu était avec lui. La puissance de Dieu était avec lui, puis il se manifestait cela afin de briser les chaînes de l'ennemi, puis il distribue les dépouilles. Certains docteurs de la loi reconnaissaient le Messie à cause de ses miracles. Dans Jean 3, 2, il y avait un homme qui est venu de lui, en parlant de Nicodème, c'est un homme ouvert. Lui, il marchait selon la loi, mais quand il a vu les choses que Jésus a faites, c'est un homme ouvert. Il voulait savoir où est-ce que ça venait, toute son autorité et sa puissance, parce qu'il était touché par les enseignements. Il était voir Jésus pendant la nuit. Fait qu'il y a un homme qui vient auprès de Jésus de nuit, puis il lui dit, ça c'était un docteur de la loi, Nicodème, « Rabbi, il a parlé pour lui-même, même s'il a dit, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, mais c'est pas 100% vrai, parce que les autres docteurs de la loi ne croyaient pas encore que Jésus est le maître, celui qui vient de Dieu. » Mais il l'a appelé Rabbi, qui veut dire maître. Puis, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Fait que ce gars-là commençait à parler avec intelligence, avec discernement. Bien beau que tout le monde est à contre Jésus, là, mais lui, Nicodème, s'est dit, wow, ta minute, là, as-tu vu tous les miracles qui se passent? Il doit y avoir quelque chose, là. C'est beau de dire que c'est Belzébuth qui fait ça, là, mais lui, il n'a pas pris cette attitude-là. Il est ouvert. Il voulait apprendre. Il voulait le savoir. Un peu comme nous, on s'est pas bloqué d'entendre que Jésus a fait des miracles. On a cru, mais il y a bien des gens qui se bloquent à cela. Lui, il s'est ouvert et il a dit, on le sait que t'es quelqu'un qui vient de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que Jésus a fait si Dieu n'est pas avec lui. Hey, Jésus a donné, il a ouvert les yeux des aveugles, il a des aveugles de naissance, des sourds de naissance, des muets de naissance, des paralytiques. Le gars, il avait la main sèche, sa main est redevenue normale. Il a fait des résurrections à la vue des autres, de ressusciter des personnes mortes. Fait que c'est des signes, comme qu'il dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il y a certaines personnes du peuple qui reconnaissaient le Messie à cause de ses miracles. Dans Jean 9, 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Puis là, il y a eu des divisions dans le peuple. Parce qu'il y en a qui se disaient, hey, y a tous les miracles qui se passent là, c'est pas normal. Il dit, comment est-ce qu'il peut arriver à faire tous ces miracles-là? Puis eux autres, ils disaient que Jésus, il respectait pas le sabbat, parce qu'il faisait des guérisons le jour du sabbat. Mais, ce qu'on sait, nous, aujourd'hui, parce qu'on lit les Écritures, c'est pas Jésus qui guérissait, c'est le Père qui est en lui qui guérissait. Fait que les miracles, quand il dit, lève-toi et marche, puis le gars, il est guéri, c'est la puissance de Dieu qui a touché le gars pour qu'il se lève. Fait qu'il n'a pas transgressé le sabbat. Puis là, Jésus leur a dit aussi à ceux qui disaient ça, il dit, qui de vous, s'il y a une brebis tombe dans un puits le jour du sabbat, il n'aura pas à sortir le jour du sabbat? Oui, il a sorti la brebis qui tombe. Puis moi, je ne guérirais pas un homme tout entier le jour du sabbat. Mais l'idée, c'est que les gens cherchaient des excuses pour s'aveugler davantage pour pas croire en Jésus à cause, ils voyaient, c'était évident, les miracles étaient là devant leurs yeux, sauf qu'ils essayaient de trouver une excuse pour pas arriver à croire, parce que ça faisait un conflit parmi le peuple juif. Ceux qui admettaient que Jésus était le Messie étaient exclus de la synagogue. Ces juifs-là, ils perdaient des disciples quand Jésus passait. Le monde allait écouter ce que Jésus disait, parce qu'il y en a qui croyaient, mais les autres, les docteurs de la loi, n'étaient pas contents. Fait qu'ils cherchaient des excuses pour essayer de rabaisser le témoignage de Jésus. Mais lui, Nicodème, il a dit, « Personne ne peut faire les miracles que tu fais. » Puis le peuple, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Jésus, en passant, n'était pas un pécheur. C'est le seul qui a vécu sa vie sans péché. Plusieurs personnes cherchaient à comprendre. Les miracles sont là. Puis là, ils se disaient, mais le Christ en fera-t-il plus de miracles quand il va venir? Parce qu'il n'était pas encore sûr. Il voyait un miracle, Puis on l'a dit tantôt, des prophéties s'annonceront que le Messie va en faire des miracles. Mais là, le monde commençait à se poser des questions. Il reconnaissait que ce gars-là, il en faisait. Mais là, si le Messie, quand il va venir, il va en faire encore plus que lui? C'est un mêlant, là. Dans Jean 7, 31, ça dit « Plusieurs parmi la foule crurent en lui et il disait « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » C'était la question, parce qu'il était prêt à admettre qu'un Messie s'en venait, mais il ne savait pas encore c'était qui. C'est pas tout le monde qui a entendu ce que Jean-Baptiste a témoigné. Ben Jean-Baptiste l'a prouvé en disant qu'il a vu la colombe qui est descendue quand Jésus s'est fait baptiser. Celui qui l'avait envoyé, il avait dit, celui que tu vas voir l'Esprit descendre comme une colombe sur lui, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il a fait long témoignage, Jean-Baptiste, mais c'est pas tout le monde qui a entendu ça. Fait qu'il y a des gens qui avaient juste vu les miracles, mais ils savaient qu'une Messie en ferait, puis ils attendaient un Messie qui ferait des miracles. Puis là, ils en ont vu pas mal, puis là, ils se posaient des questions. D'autres, ils étaient convaincus, ayant vu les miracles. Dans Jean 6,14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Fait qu'il y en a qui étaient convaincus. On voit dans les écrits qu'à un moment donné, il y a une multitude qui suivait Jésus. Il y avait 5000 personnes qui étaient devant lui, sans compter les femmes et les enfants. Puis ils passaient des fois 3 jours devant Jésus, écouter ce que Jésus enseignait, puis sans manger ni boire, pour en savoir le plus possible sur le Messie. C'est juste quand il y a eu la Pentecôte, il y en avait 120 fermes qui priaient. Mais il y en a eu du monde qui ont suivi. Après ça, ça dit qu'il y en a eu 3000 qui s'est converti. Ça a monté à 5000. Fait que probablement que beaucoup de ceux qui étaient là au départ, il y en a qui ont cru. Parce que tu le vois dans les écrits, Jean y témoignait qu'il y en a qui ont cru. On a vu ça dans Jean 6,14. Les gens du peuple s'étonnaient que les docteurs de la loi ne voulaient pas admettre que Jésus était Dieu. Qui était de Dieu. Dans Jean 9, 21, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Ça, c'est les docteurs de la loi qui parlent. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Fait qu'il ne savait pas, en voyant Jésus, quelle était son autorité. Eux autres, ils étaient sûrs, les docteurs de la loi, que Dieu avait parlé à Moïse. Pourtant, ils n'ont jamais vu Moïse parler à Dieu. C'est à eux écrit dans les écrits. Fait que juste en croyant dans les écrits, ils savaient que c'était Dieu qui avait parlé, parce que c'était écrit, mais ils voyaient un miracle, puis ils ne croyaient pas. Cet homme leur répondit, ça c'était quelqu'un du peuple qui venait de recevoir une guérison, il lui dit, il est étonnant que vous sachiez que vous ne sachiez d'où il est, puis cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. On voit qu'il y a des gens qui étaient fermement convaincus que c'était des miracles du jamais vu. Hey, des aveugles nés. J'en ai déjà vu des personnes aveugles, des fois, là, que leurs yeux, ils manquent des morceaux dans le. Ils regardent eux autres, ils manquent la rétine ou ils manquent le nerf optique, ils manquent des bouts, des fois ils ont les yeux complètement fermés, ils ne rouvrent même pas. Il y a différentes sortes d'aveugles. Puis pour que tu te mettes à voir quand tu es venu au monde de même, c'est puissant. C'est puissant, t'en vois pas à tous les coins de rue du monde faire ça. Et jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Lui, il reconnaissait, les docteurs de la loi, je suis pas sûr que c'est Dieu qui a parlé. Même si plusieurs avaient des doutes, toute la multitude était dans la joie à cause de ces miracles. Dans Luc 19, 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, non, on parle pas avec des 12, ni d'un des 70, il y avait une grosse batch de monde qui suivait. Toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Puis là, nous autres, quand on lit les quatre évangiles, on en voit pas mal de miracles. Mais Jean nous affirme qu'il en a fait bien plus que ça des miracles. Il dit, on ne pourrait même pas toutes les écrire. Tellement qu'il y en a. Fait que eux autres, ces gens-là, de cette époque-là, ils étaient étonnés, mais ils étaient dans joie, puis ils croyaient, puis ils bénissaient Dieu, puis ils louaient Dieu à cause de tout cela. Les apôtres, eux autres, dans les écrits, ils ont confirmé que Dieu a prouvé qu'il était avec Jésus par des miracles qui se sont produits. Dans Actes 10, 38, il dit, « Vous savez, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est Dieu qui l'a oint pour accomplir ses miracles. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Alléluia. Oui, c'est encore pareil aujourd'hui. Tous les miracles qui se produisent, je dis pas qu'il y en a tous les jours. On est, nous ici, on n'est pas tout seuls. Tous les chrétiens sur la planète, il y en a tous les jours. Mais pas à même place à tous les fois. Même chose que dans le temps de Jésus, qu'il se promenait d'une ville, les miracles étaient dans cette ville-là. Après ça, il s'en allait dans une autre ville. Là, c'était une autre ville qui en profitait. Puis, c'est la même chose aussi à peu près comme exemple quand on parle de la piscine de Bethesda où un ange descendait de temps en temps dans la piscine pour brasser l'eau. Le premier qui sautait dans la piscine, il était guéri. Mais c'est pas tout le monde qui était guéri. C'est un de temps en temps qui était guéri. Puis, le un que Jésus a rencontré, il dit, « Tu veux-tu être guéri? » Il dit, « Seigneur, ça fait 38 ans que je suis là. » Couché sur le bord de la piscine, attendant une guérison. Mais il dit, quand on voit l'eau être brassée, il n'y a personne qui me jette dans la piscine. Là, Jésus, il a dit, lève-toi et marche. Le gars, il était guéri instantanément, puis il a emporté son lit, puis il est parti avec. Mais on voit là-dedans que Dieu fait des moves, là. À un moment donné, il guérit un ici, il guérit un autre là, il guérit un autre là. C'est rare que tout le monde est guéri d'une shot, mettons, d'une église, puis que tout le monde sera guéri la même journée, à la même réunion. Mais quand on attend des guérisons, il faut toujours être ouvert que Dieu peut me toucher aujourd'hui, que Dieu va répondre à ma prière aujourd'hui. Il faut toujours être dans l'attente que Dieu fasse quelque chose. Si on est fermé, puis on ne croit pas, puis on n'en demande pas, mais on n'en verra pas non plus. Mais si on est ouvert, à un moment donné, c'est ton tour. À un moment donné, c'est ton tour. À un moment donné, si t'es pas là, cette journée-là, mais là, écoute bien, arrange-toi pour être là. C'est comme le gars, Jésus passe dans une ville, puis le gars, il prend pas la peine de se déplacer, mais il n'aura pas eu de guérison cette journée-là. Ou des fois, même, il a fallu que quelqu'un d'autre les emmène. Fait que si vous connaissez des frères et sœurs qui ont besoin de guérison, puis ils sont pas capables de se déplacer, allez chercher, emmenez-les dans votre char, puis emmenez-les ici. Tant qu'on est en présence de Dieu, c'est la place pour la guérison en nous, qu'on peut faire connaître nos besoins à Dieu. Malgré les miracles, plusieurs ne croyaient pas du tout dans Jean 12, 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Il va toujours avoir du monde qui ne croit pas. Faut pas se laisser arrêter par les incrédules, par ceux qui veulent pas croire, qui veulent pas être touchés par Dieu. Faut s'accrocher. Mais Jésus, lui, a dit à propos de ce fait-là, qu'après avoir vu tous les miracles, ça dit, malgré, dans Jean 12, 37, malgré tant de miracles, il y en a qui ne croyaient pas en lui. Mais Jésus a fait une déclaration, même deux, à propos de ça. Il a dit, dans Jean 15, 24, « Si j'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. » si Jésus n'aurait pas fait les miracles, les œuvres qu'il a faites, que nul autre a faites, s'il n'aurait pas fait ça, il n'y aurait pas de péché. Là, il dit, mais maintenant, ils les ont vus, mes miracles, puis ils m'ont haï, moi et mon Père. Si Jésus n'aurait pas prouvé, Dieu le Père n'aurait pas prouvé par des miracles que Jésus était le Messie, personne n'aurait été dans le péché de ne pas croire. Mais Jésus l'a prouvé qu'il était en gardant le contact avec son Père, puis son Père a manifesté les miracles, puis les preuves sont faites. Maintenant, les gens sont inexcusables de ne pas croire en Jésus. Autant que les docteurs de la loi étaient convaincus que Dieu avait parlé à Moïse parce que c'était écrit comme témoignage dans les écrits de l'Ancien Testament, autant que nous, aujourd'hui, les preuves sont faites, sont écrites dans le Nouveau Testament, puis les gens n'ont pas d'excuse de ne pas croire. Ils sont automatiquement, en ne croyant pas en Jésus, ils haïssent Jésus, puis ils haïssent le Père. Parce que tu ne peux pas avoir le Père sans voir le Fils. Faut que tu passes par le Fils pour avoir le Père. Fait que tu n'as pas le choix, faut que tu crois en Jésus si tu veux être avec le Père. Fait que si tu veux que Dieu te bénisse, faut que tu crois. Mais ces gens-là qui n'ont pas cru, ils ne croyaient pas malgré avoir tout vu, mais ils disent ils sont dans le péché. Puis Jésus a même rajouté d'autres choses. Il a fait des reproches aux villes qui ne se sont pas repenties suite à sa prédication et ses miracles, dans Matthieu 11, 20. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu la plupart de ses miracles. Voyez-vous, là, Jésus a fait des reproches aux villes. Jésus a passé dans des villes, il a prêché, il a prié pour les gens, il a eu plein de miracles. Puis, s'il y en a qui n'ont pas cru, Jésus a commencé à leur faire des reproches à ces villes-là, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Le fait de voir Jésus, de reconnaître Jésus, de croire en Jésus, ça t'amène, faut que je me repente. Faut que je demande pardon à Dieu, faut que je me tourne vers lui, faut que j'accepte Jésus comme mon sauveur, faut que je m'enligne. Mais les gens qui ne l'ont pas fait dans les villes, Jésus les a parlé, verset 21. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu vas être abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. On voit là-dedans que oui, le Messie est annoncé. Oui, le Messie est venu. Oui, Dieu a accompli les miracles pour prouver que le Messie, c'était le Messie. Les preuves sont là. Le témoignage est donné. Ceux qui refusent ce qui est écrit là sont faits. On n'a pas le choix. Il faut se tourner vers Jésus. L'apôtre Jean lui insiste. En lisant les miracles des évangiles, que nous croyons en Jésus. Dans Jean 20, 30, ça dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. On a assez, autrement dit, avec ce qu'il y a d'écrit pour croire. On a assez pour se faire notre opinion sur Jésus. On a assez pour être convaincu que Jésus, c'est vraiment le Messie. Il n'y a jamais personne d'autre qui a fait ce que Jésus a fait. Il n'y a jamais personne d'autre qui a prêché comme Jésus a prêché les vérités de Dieu. Ce qui est là, ce qui a été écrit, ce qu'on a décrit, même si on n'a pas toutes les dires et tous les miracles décrits, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. C'est ça le but, frères et sœurs. Le témoignage de Jésus nous a été laissé. Tout s'est dit qu'on avait besoin de savoir, toutes les preuves, les miracles, les divins miracles, pour nous prouver que c'est lui le Messie. Dans le titre du message, « Les miracles prouvent que Jésus, c'est le Messie ». Puis tout ça, ça a été écrit afin qu'on croit puis qu'on ait la vie en son nom. Si, je vais faire un appel, parce qu'il y a quelqu'un qui écoute à quelque part, puis il n'a pas encore vraiment pris position pour Jésus, pour dire qu'ils veulent que Jésus rentre dans leur vie. Je vais vous faire une prière avec vous. Faites cette prière pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur, puis vous engager, comme on disait tantôt, vu que vous êtes témoin de ces choses, ça devrait vous amener à la repentance. La repentance, c'est de regretter nos péchés qu'on a faits, nos offenses qu'on a faites à Dieu, afin que Dieu nous pardonne. Le sacrifice de Jésus à la croix, ça a dans le but de nous pardonner de nos péchés. Puis là, on s'engage à le suivre, à marcher comme qu'il nous le demande. C'est ça la repentance puis la conversion que Dieu s'attend de nous. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu puis Dieu vous a pardonné. Croyez afin que vous ayez la vie en son nom. Demeurez ferme dans la foi. Ne vous faites pas voler par le diable ou même influencé par les incrédules. Les incrédules font face à qu'ils rejettent la pierre de langue qui avait été donnée pour qu'on puisse être sauvé. Ils rejettent la pierre qui nous sauve, c'est Jésus. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de prendre ce que Jésus a fait, le recevoir dans notre vie, puis le garder jusqu'à la fin, parce qu'on veut être pardonné, puis on veut faire partie de ceux qui ont la vie éternelle. Amen.